Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business.
Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
La deuxième partie des experts avec cette fois-ci nos trois invités. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de « Où va notre argent ? Les dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent. Le scandale français, c'est aux éditions de l'Observatoire. » Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, auteur du « Conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial ». C'est la collection Alpha. Et puis Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à la Sorbonne Paris-Nord, membre des économistes athées et du manifeste pour l'industrie. Dans un instant, on va parler du risque de dégradation de la note de crédit de la France chez S&P. La décision sera annoncée vendredi et puis on vous parlera aussi du plan de bataille du gouvernement pour lutter contre la fraude sociale estimée par la Cour des comptes entre 6 et 8 milliards d'euros. Mais d'abord, Christian, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur la réindustrialisation de la France.
Alors, on est à la jointure d'un changement de stratégie, puisqu'on s'est désindustrialisé massivement depuis 40 ans, mais avec une forte accélération dans les années 2000. C'est pas arrivé par accident. Les autorités françaises, mais le monde universitaire, les sociologues, tout le monde s'est convaincu dans les années 90 que la désindustrialisation était une bonne chose. Faut pas l'oublier. À l'époque, on parlait de monde post-industriel, post-travail.
On parlait d'usines, on parlait d'entreprises sans usines. Voilà. C'était la stratégie
2000,
de Serge.
On avait eu Churuc, qui était le patron d'Alcatel-Alstom, qui a parlé de l'entreprise sans usine. C'est la réussite absolue sur le plan stratégique, puisqu'il n'y a ni entreprise, ni usine, ni plus rien. On avait l'équivalent d'un Samsung, et tout a été détruit. Donc la question de la réindustrialisation, ce n'est pas seulement une question du coût du travail. Globalement, dans l'industrie, le coût du travail, c'est, selon les chaînes et la nature de la robotisation, entre 10 et 20% du coût global. Le point clé, c'est également la politique énergétique, parce que au milieu des années 90 et à la fin des années 90, on a laissé se déliter notre politique énergétique. On avait un avantage comparatif colossal avec une énergie électrique qui était moins chère qu'ailleurs, sous les coups de boutoir des Allemands, mais aussi par la nullité des autorités françaises, gauche et droite confondues d'ailleurs, on a laissé se déliter cet avantage. Donc pour réindustrialiser, il faut être clair, il faut doubler la production électrique sur les 20 prochaines années. Qui annonce un plan de cette nature ? On a même laissé, on a foudroyé, c'est le cas de le dire en parlant d'électricité et EDF, au cours des derniers 18 mois, alors que c'est l'acteur clé de la transition énergétique. On attaque Total. Total investit beaucoup aujourd'hui dans le photovoltaïque, mais pas en France. S'il y avait quelque chose d'intelligent plutôt que de s'attaquer aux super profits ou autres, ça serait d'exiger de Total d'investir massivement dans le photovoltaïque. Réindustrialiser de manière intelligente, c'est aussi produire les panneaux photovoltaïques sur le territoire français, parce que du photovoltaïque à base de panneaux importés de Chine, c'est d'une stupidité sans nom. Donc c'est une stratégie globale qu'il faut mettre en place pour la réindustrialisation. Donc simplement aller chercher...
À vous entendre, on en est loin.
Oui, absolument. Parce que aller chercher des investissements étrangers, ce n'est pas suffisant. Ce sont les arbres qui cachent la forêt d'une désindustrialisation lente qui continue. La seule façon de vraiment réindustrialiser, c'est de massifier la France en grosses PME et ETI. Il faut doubler le nombre d'ETI, ces entreprises de taille intermédiaire.
Comment on les fait venir, ces entreprises ? Comment est-ce qu'on les crée ?
Y a d'abord la question du coût du travail, effectivement, entre 2 et 5 SMIC, parce que c'est là que se trouve l'essentiel des emplois industriels. D'ailleurs, une des raisons qui pousse à réindustrialiser, c'est que les Français se plaignent à juste titre d'un appauvrissement du pays. Mais l'appauvrissement du pays, il est lié à la désindustrialisation et à la perte des emplois qui sont correctement payés.
Mais il n'y a pas que la fiscalité des entreprises qui compte. Il y a aussi la fiscalité des personnes physiques.
Bien sûr, mais ça ne gêne pas les ouvriers.
Regardez ce qu'ont fait les Suédois dès 2004. Et ce sont les sociaux-démocrates qui l'ont fait. Ils ont supprimé l'impôt sur sur les successions et les donations pour tout le monde, parce que de grands entrepreneurs quittaient leur pays, notamment le fondateur d'IKEA. Le fondateur d'IKEA avait quitté la Suède, il était parti en Suisse, ils ont changé les choses.
Parti pour des raisons fiscales personnelles,
et il est revenu grâce à ça. Pourquoi? Parce que finalement...
Oui, Macron
nous,
a supprimé l'ISF.
Attendez, on est à 0,7% de taxation sur les successions et les donations, on est plus cher que tout le monde.
Mais là, on sort du débat sur la réindustrialisation.
C'est complètement lié.
Non, madame, vous ne pouvez pas dire ça.
Si nos PME et nos ETI étaient moins taxés dans la transmission, on en aurait gardé beaucoup plus sur notre sol ces dernières années. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui décident à un moment d'arrêter, qui ne transmettent pas leurs entreprises ou qui partent à l'étranger parce que nous taxons tellement. Nous sommes à 15 à 17% de la valeur de l'entreprise pour transmettre en France, alors qu'en moyenne dans l'Union européenne, c'est 5%. Les Allemands, ils transmettent à zéro. Les Italiens, ils ont des abattements énormes. Les Irlandais, pas au niveau de nos voisins européens.
Oui, certes.
La moyenne, c'est 5.
J'ai une proposition sur ce plan.
Attendez, c'est hyper important. La fiscalité personnelle, elle est hyper importante pour garder des PME, des ETI, des entreprises industrielles sur notre territoire. Et on n'en parle jamais.
Dany Lang n'est pas d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord. J'étais d'accord avec ce que disait Christian Saint-Etienne, décidément aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a signé le même texte pour demander une révision radicale des coûts de l'énergie, la manière dont est tarifiée l'énergie en Europe. Et c'est vrai qu'on partage cette vision manifeste pour l'industrie, en grande partie celle que vous évoquiez tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord du tout avec ces histoires de fiscalité, parce que quand on regarde notamment la répartition... Non, pas du tout. Parce que premièrement, tous les travaux empiriques sérieux... pour tout ce qui est fiscalité, c'est un déterminant mineur, voire insignifiant de l'investissement. Quand on prend tous les travaux empiriques qui ont été menés, on ne trouve pas de corrélation entre ce facteur-là et l'investissement. Et puis par ailleurs, il y a déjà eu pas mal de révisions de ça. Il faut quand même avoir conscience que l'une des raisons de l'insatisfaction sociale actuelle qui fait que la réforme des retraites passe mal, indépendamment du fait que d'après moi et d'autres, il n'y en avait pas besoin. C'est la question de l'accès au patrimoine. Vous avez les 50% les moins favorisés en France qui possèdent moins de 7% du patrimoine et les 10% les plus favorisés qui sont autour de 50%. Donc c'est pas là que se pose la question. C'est pas ça qui détermine une stratégie industrielle. Je suis en désaccord complet avec vous sur la fiscalité.
Christian voulait réagir également.
Non, je voudrais répondre là-dessus. Il y a 10% des Français qui, sur l'ensemble des taxes directes, des impôts directs, payent 50% de la note. On a une fiscalité qui est de plus en plus concentrée. Sur l'impôt sur le revenu, c'est de pire en pire. C'était 70% qui était concentré sur les 10% qui déclarent le plus. Maintenant, c'est 75%. Alors, imaginez que la fiscalité des personnes n'a pas d'impact sur les décisions d'investissement, de création d'entreprises, de transmission des patrimoines entrepreneuriaux de notre pays. Je pense que c'est complètement décalé. Par ailleurs, il y a quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué. C'est la question du poids des normes dans notre pays. Nous, on l'évalue à 100 milliards, 80 milliards qui pèsent sur les entreprises.
C'est pas nouveau ce débat. Nicolas Sarkozy l'avait déjà ouvert.
On met deux ou trois fois plus de temps pour pouvoir construire une usine en France par rapport aux pays voisins. Et ce ne sont pas que des normes européennes. On a adopté dans la loi climat et résilience énormément de nouvelles normes qui pèsent et qui n'ont pas été évaluées dans l'étude d'impact. Donc, contrairement à nos voisins du nord de l'Europe, on n'évalue pas en temps réel les nouvelles normes qui vont arriver sur les entreprises, et on le fait pourtant pour les collectivités locales. Comment ça se fait que les collectivités locales aient un centre d'évaluation de la norme qui évalue en permanence, alors que pour les entreprises et les ménages, on a zéro chiffrage? Donc ça aussi,
il faudrait un office parlementaire.
On a le CNEN pour les collectivités locales, on évalue tous les ans, et alors du côté des entreprises, on n'évalue pas, alors qu'en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne...
Sur la fiscalité, le point clé, c'est effectivement la transmission. Sur cette transmission, moi je fais une proposition depuis plusieurs années, c'est la création de fondations de production qui permettraient de loger les actions des entreprises en contrepartie d'une durée de détention très longue dans ces fondations. C'est un peu acclimaté en France. Les trusts ou surtout les fondations allemandes. L'idée, c'est que si les actionnaires laissent les actions très longtemps dans ces des fondations, à ce moment-là, la fiscalisation est beaucoup plus faible. Donc il y a une contrepartie de stabilisation du système industriel. Mais effectivement, je suis d'accord que la fiscalité est trop élevée parce que la dépense publique est trop élevée, mais c'est pas le facteur central qui empêche qui va empêcher la réindustrialisation. Ce qui nous tue actuellement, et si vous regardez le point numéro un des entreprises qui veulent s'installer en France, c'est la disponibilité d'une énergie pas chère à long terme. Donc aujourd'hui, c'est devenu un enjeu clé. L'autre enjeu clé, c'est la disponibilité de terrain pour construire des usines. Donc c'est pour cela
le foncier est cher, mais il n'est pas disponible.
Voilà, on évoquait la question de la transition énergétique tout à l'heure, mais il faut une stratégie globale dans ce domaine, comme dans celui qu'on évoquait tout à l'heure sur l'urbanisation.
Juste un mot sur la question de l'énergie. RTE avait fait un rapport en 2017 pour dire qu'on allait finalement quasiment diviser par deux la consommation d'électricité, etc.
Je me suis élevé contre ce rapport scandaleux.
Ce rapport, nous, on a fait des études sur ce sujet en disant, attention, on a des risques de blackout, des risques de coupure, etc.
Il ne faut pas diviser par deux, il faut doubler la production.
À l'époque, on était très peu nombreux à dire quelque chose sur ce rapport, payé par nos impôts, avec finalement des préconisations qui étaient complètement...
Moi, je vais très loin, je propose l'abolition de RTE, parce qu'ils ont complètement bousillé
Comment se fait-il qu'on paye autant de rapports avec nos impôts qui sont en réalité complètement à côté de la plaque et qui nous emmènent derrière dans le mur et qui nous empêchent de créer des emplois en France ? Ça, j'aimerais bien qu'à un moment, le Parlement se saisisse de cette question.
On va passer au sujet suivant. Je vous donne deux réactions. Merci Agnès, votre vision est rafraîchissante, nous dit Jean-Marc. Message de Arnaud qui nous dit « J'aime beaucoup Agnès Verdier-Molinier et ses idées, mais j'aimerais bien la voir au ministère des Finances pour voir si elles sont réellement applicables. » Voilà. Peut-être aux prochaines élections. On va parler de la France qui est confrontée à un risque de dégradation de sa note de crédit chez S&P. La décision sera annoncée vendredi. On sait que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, négocie étroitement. Ça a été confirmé par Elisabeth Borne cette semaine. On nous a raconté, après la dégradation chez Fitch, que c'était essentiellement l'opposition à la réforme des retraites qui posait problème, parce que ça limite les possibilités de réforme en France. Agnès Verdier, est-ce que le problème de base, c'est pas avant tout la dépense publique qui fait peur aux agences de notation?
C'est avant tout la capacité à assainir notre gestion publique, à montrer qu'on est capable d'avoir un cap, à montrer qu'on est capable de réduire la dépense. On est à 58% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. Et est-ce qu'on a fait des annonces qui rassurent vraiment...
Là, vous parlez des prélèvements obligatoires.
Non, je parle de la totalité des dépenses publiques par rapport finalement à la richesse nationale. Et qu'est-ce qui est important pour ceux qui prêtent à la France ? C'est de se dire qu'ils vont prêter à finalement un pays qui sera capable de les rembourser derrière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc, on n'a pas fait de coalition après les élections de 2022. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un contrat de coalition comme ce qui se passe notamment en Allemagne, mais dans plein d'autres pays européens, si vous regardez comment ça fonctionne, finalement, il y a des contrats de coalition, il y a des caps, il y a une signature. En Allemagne, c'est 177 pages de contrats de coalition qui ont été signés. Et derrière, c'est vrai qu'on est dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va pouvoir passer ? Il y a beaucoup d'annonces en ce moment gouvernementales qui visent à rassurer les marchés. On le voit, c'est la question finalement de baisser de 5% les dépenses de l'État. Mais en réalité, quand on regarde, c'est peau de chagrin, parce que ça arrive que sur 170 milliards de dépenses de l'État, alors qu'on a 1500 milliards de dépenses publiques, il va falloir un projet beaucoup plus clair et beaucoup plus rassurant. Et moi, ce que je demande, c'est qu'à un moment, on ait cette véritable revue de dépenses, mais globale, et en mettant aussi autour de la table les acteurs sociaux, ceux qui dirigent finalement les grandes caisses d'allocation familiale, les caisses sociales, parce que ça, là, c'est l'essentiel de la dépense, mais aussi ceux qui dirigent les collectivités locales. Et ce qu'on n'a jamais fait en France, c'est la revue des missions publiques. Qui fait quoi ? Et ce qui nous coûte hyper cher dans le système, c'est qu'on surpaye parce qu'on paye tous les échelons à travailler un peu sur toutes les missions publiques, sur l'école, sur le logement, sur les transports, sur la santé, etc. Et plus ça va, plus les échelons s'occupent aussi de toutes les questions, et moins c'est clair, et plus il y a un enchevêtrement.
Ça veut dire quoi ? Qu'on pourrait faire aussi bien en dépensant moins ?
Mais ça nous coûte entre 70 et 80 milliards de plus pour produire nos services publics chaque année, sont les chiffres de l'OCDE. Alors ça, c'est finalement un peu le défi déficit public incompressible de la France. On l'explique très bien par ce surcoût de production de nos services publics. Donc une revue des missions publiques, ça fait des années qu'on en parle. Ça n'a jamais été fait. Donc je crois que le gouvernement, pour l'instant, il gagne du temps. Il essaie de rassurer les agences, mais ça n'aura qu'un temps. Derrière, il va falloir avoir un plan beaucoup plus charpenté.
Dany Lang.
Alors, mais évidemment, je suis en désaccord complet, donc je vais moi aussi prendre le temps de développer. Alors déjà, il faut rappeler que les agences de notation, c'est pas l'alpha et l'oméga. On leur a donné le pouvoir à cause de ces fonds de pension américains très, très massifs et de ce système de retraite privée. On leur a donné le pouvoir. Mais rappelez-vous que ces mêmes agences de notation notaient AAA des produits en 2008 qu'elles appelaient en interne pieces of shit, c'est-à-dire de la merde. Donc, il ne faut pas non plus exagérer le sérieux et la qualité. Et d'ailleurs, devant le Parlement américain, quand on les a interrogées, elles ont rappelé que ce qu'elles émettent, c'est des opinions. D'accord ? Donc souvent, ces agences ont un point de vue qui est extrêmement discutable et qui est souvent assez limité. Notamment, ils n'utilisent pas, à ma connaissance, de modèles macroéconomiques sérieux. Voilà. Donc déjà, il faut commencer par rappeler ça. Et puis, les marchés financiers, c'est bien gentil, mais on s'est mis à la merci des marchés. Et les marchés ont souvent des demandes contradictoires. Elles demandent d'un côté à ce qu'on ait plus de croissance, qu'on ait moins de chômage, qu'on ait plus de tranquillité sociale. Et de l'autre côté, elles demandent de couper dans les dépenses publiques, ce qui n'est pas forcément compatible. Voilà. Donc, par ailleurs, Agnès Verdier-Molinier évoquait le chiffre du rapport de la dépense publique par rapport au PIB, mais soyons clairs, ça ne veut pas dire qu'il reste que si on dépense 58%, si la dépense publique représente 58% du PIB, ça ne veut pas dire qu'il reste 42% pour le privé. La dépense privée, quand on la compare au PIB, on est à peu près à 250%. Donc ce n'est pas du tout comme ça que ça se pose. Et soyons clairs, ce n'est pas parce que c'est de la dépense publique que derrière, ça ne va pas au privé. Il y a une très grande partie en France de la dépense publique qui, justement, relève de la redistribution. Parce qu'en France, quand on regarde les indicateurs, notamment le fameux coefficient Gini, cet indicateur-là nous indique qu'avant redistribution, on est aussi inégalitaire que les Américains et les Japonais.
Mais on l'est beaucoup moins après redistribution.
Après redistribution, on descend à peu près au niveau de l'Allemagne. Donc,
en dessous de l'Allemagne.
Pardon ?
On a une meilleure...
Le Gini après redistribution, il est autour de 3,1, ouais. Ce qui est à peu près le niveau allemand, hein, quelques chouilles après, quelques virgules près. Vous pourrez aller vérifier. Après, il y a d'autres indicateurs qui sont plus intéressants que le Gini, notamment le rapport interdécile. Mais ça, c'est une autre affaire. Toujours pour dire, moi, je veux bien qu'on regarde la dépense publique, mais attention, effectivement, ces dernières années, on a eu une redirection de la dépense public vers l'aide aux entreprises. Donc, il fallait le faire au moment du Covid, etc.
Je vais me faire l'avocat du diable. L'aide aux entreprises, ça permet de créer des emplois ou d'en maintenir.
Oui, ça dépend de quoi on parle. Le fameux CICE, les emplois qui ont été créés par le CICE ou maintenus étaient quand même extrêmement cher par rapport aux emplois, par exemple, territoire zéro chômeur. Les emplois CICE, si je me souviens bien, les études, elles nous disaient qu'on était à 800 000 euros par emploi.
C'est un gouvernement de gauche.
Oui. Christian va réagir. Question de dépenses publiques, effectivement, il y a une question d'enchevêtrement
des compétences.
Des compétences, mais dans l'organisation. Il faut une simplification massive qui ne viendra pas sans réforme institutionnelle. Donc, dans les 58 points de dépenses publiques, il y a au moins 12 points de PIB de dépenses publiques au niveau des collectivités locales. C'est devenu extrêmement inefficace, donc il faut re-responsabiliser les collectivités locales, vraisemblablement en portant l'élection de la commune à l'intercommunalité, ce qui permettrait de faire des économies massives en back-office dans les collectivités locales. Mais il y a également Mais le problème central de l'action publique, c'est son inefficacité. Alors, on est à 58 points de PIB. Si on avait l'éducation la meilleure du monde, si tout le monde sortait à 18 ans ou 20 ans en maîtrisant toutes les technologies, en parlant trois langues...
C'est pas ce que nous dit le classement PISA.
Voilà, c'est l'inverse de ce qu'on observe. Si on avait une insécurité qui avait disparu sur le territoire, s'il n'y avait pas de chômage sur le territoire, si on était à 4 points de PIB de R&D en France, si on avait l'économie la plus productives d'Europe, moi, je serais pour les 58 points de dépenses publiques. Donc la question, c'est d'avoir 58 points de dépenses publiques, un chômage des jeunes qui reste élevé, une insécurité croissante et surtout un effondrement des compétences à l'école primaire. Donc ça, c'est un problème majeur, d'autant plus que souvent on dit bah, l'école est inefficace. C'est d'ailleurs le même discours sur l'hôpital. Il suffit de mettre plus de moyens. Mais en réalité, au niveau de l'école primaire et du collège, on a plus de moyens donnés en France que dans les autres pays qui sont beaucoup mieux classés que nous dans le classement PISA. Donc il y a toute une réflexion, par exemple, on le sait, à l'école primaire, le problème central, c'est la pédagogie et la façon dont on enseigne la lecture, l'écriture et le calcul. Avec des travaux qu'on n'avait pas il y a 15 ans, mais dont on dispose aujourd'hui, hein, on sait que les trois années clés de la formation quasiment d'un être humain, c'est en fait les trois premières, c'est-à-dire la dernière année de maternelle, le cours préparatoire, le CE1. Un gamin qui ne maîtrise pas lecture, écriture, calcul à la fin du CE1, il s'en remet pas quasiment de toute sa vie. Donc il y a un travail majeur à faire à ce niveau-là. C'est pas une question de dépenses, c'est une question de réflexion sur la façon dont on enseigne la lecture. Sur l'action locale, c'est quand même pas normal qu'on ait une crise du logement. Parce qu'on ne trouve pas de terrain et qu'il n'y a pas d'autorisation de construction. Donc,
parce qu'on ne veut plus artificialiser les sols.
Voilà, et donc il y a une réflexion qu'on doit avoir sur cette question d'artificialisation des sols. On le sait, c'est ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire la construction collective. On n'est pas obligé de faire des barres type Courneuve, mais on peut faire des immeubles de 3, 5, 7 étages aux dernières normes de qualité. Et avec des transports en commun électriques, vous améliorez massivement la qualité des logements et vous réduisez l'empreinte carbone. Donc il y a toute cette réflexion. En fait, il n'y a plus de direction stratégique de l'État. Il n'y a plus d'État stratège depuis plus de 20 ans.
Monsieur, est-ce que vous êtes pour le rétablissement de l'État?
Moi, je suis pour le plan stratégique.
Je voudrais ajouter quelque chose, si je peux. Il a été dit qu'on a un problème, finalement, de dégradation des services publics par rapport, finalement, à l'argent qu'on met en face, qui est l'argent de tous les Français.
Mais je crois qu'on n'en a pas pour notre argent.
On n'en a pas pour notre argent, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre. Mais est-ce qu'on a le droit d'évaluer la qualité des services publics en France? Parce qu'entre deux écoles, il n'y a pas du tout les mêmes résultats. Entre une école privée sous contrat et une école publique. Moi, je montre tous les chiffres dans le livre. Pour les élèves de 6e, pour lire un texte de 200 mots, finalement, dans le privé, vous avez plus de 60% des élèves qui le lisent très bien. Dans le public, vous êtes à 52%. En REP, vous êtes à 40%.
Est-ce que c'est lié à l'enseignement ou est-ce que c'est lié
C'est lié à un énorme problème de capacité de gestion des personnels dans le secteur public. Mais bien sûr que si. On fait une expérimentation. On confie dans des départements qui sont défavorisés, on confie les écoles en question ou les collèges en question à des gestionnaires privés, notamment de l'enseignement privé, qui travaillent très bien. Aujourd'hui, tous les ministres, la plupart des ministres ont leurs enfants dans le privé. La plupart des députés ont leurs enfants dans le privé aujourd'hui. Et ils ne sont pas tous issus de catégories socioprofessionnelles extraordinaires. Non. Donc arrêtons de dire que c'est un problème de mixité, parce que ça, c'est trop facile. C'est pareil pour l'hôpital et les cliniques. C'est pareil pour regarder entre deux hôpitaux, la gestion entre deux hôpitaux. Il y en a qui sont très bien gérés, il y en a qui sont très mal gérés. Donc, comme on n'a pas le droit de le faire, la CNIL vient de donner finalement un veto pour empêcher les journalistes du Point de faire un classement des hôpitaux et des cliniques qu'ils faisaient tous les ans depuis des années et des années. Est-ce que c'est normal? Dans les pays qui nous entourent, on incite justement à faire des classements, à valoriser le bon travail des bons gestionnaires. Est-ce qu'on le fait pour les collectivités locales? C'est pareil, on l'empêche, cette possibilité de classement et de palmarès. Donc, si on veut mieux gérer l'argent public, il faut valoriser les bons gestionnaires. Bon. Et en réalité, on le fait pas du tout. Et même, c'est contraire à ce que finalement la doxa française qui veut qu'on ne regarde jamais comment on utilise les deniers publics.
Dany Lang.
Alors, j'aimerais juste rappeler quelque chose. Ce discours, on l'entend depuis 40 ans.
Non, pas du tout.
Si.
Bah non.
On l'entend depuis 40 ans.
Et depuis 40 ans,
depuis
on empêche
40 ans,
de regarder
si vous,
ce qui
s'il vous
passe.
Plaît, je ne vous ai pas interrompu. Maintenant, c'est à mon tour. Depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on observe? Je prends l'exemple de l'université, mais aussi à l'hôpital. On a rajouté, au nom de l'efficacité de la dépense, des couches de bureaucratie à n'en plus finir. La réforme d'université de M. Sarkozy et de Mme Pécresse, c'était censé nous faire monter dans le classement PISA. On est descendu dans le classement PISA. Pourquoi ? Parce qu'on s'est retrouvé avec des bureaucrates à tous les étages qui vont vérifier chaque fois qu'on va faire pipi. Donc des formulaires, de la bureaucratie, etc. Moi, je veux bien qu'on ait plus d'efficacité. Le problème de ce discours, c'est qu'il débouche notamment à l'hôpital et notamment à l'université, des endroits que je connais comme relativement bien, sur de la bureaucratie, des rapports. Dans tous les laboratoires de recherche CNRS aujourd'hui, il a fallu recruter une personne juste pour vous aider à décrocher des contrats pour avoir de l'argent. Donc on passe son temps dans des histoires pareilles plutôt que de travailler sur le fond de ces recherches.
Au moins vous êtes tous d'accord sur ce qu'il faudra une réforme en profondeur.
Il faudrait une réforme en profondeur, mais pas pour nous ajouter des couches de bureaucratie au nom de l'efficacité.
Le cœur du sujet, c'est de faire ce que d'ailleurs la théorie économique et les bonnes pratiques de gestion conseillent, c'est d'avoir des unités de production publiques qui soient soumises aux règles communes, c'est-à-dire un budget, une mission et des responsables. Donc on a effectivement une réforme du management de l'action publique qui est absolument fondamentale. Mais il faut aller aussi, j'évoquais cette question qui est centrale, hein. Quand même les études, elles sont terrifiantes. 18% des enfants sortent du CE1 sans maîtriser les trois compétences de base, mais 12% les maîtrise mal. Ça fait 30%, c'est gigantesque. Hein? Donc, et en plus, ils s'en remettent pas pratiquement pendant tout le reste de leurs études et pratiquement pendant tout le reste de leur vie. Donc sur ce plan-là, il y a des progrès colossaux qui sont faits dans les techniques pédagogiques. Il y a un moment, il faut imposer les bonnes techniques au corps enseignant. On ne peut pas continuer d'avoir un corps enseignant qui enseigne la lecture par le semi-global quand on sait que si on ne fait pas 3 mois d'alphasyllabique, on n'aura pas les gamins qui savent lire à Pâques. Donc il y a un moment, il y a une question de management de la sphère publique qui est absolument cruciale.
Il y a un sujet, c'est déposer les comptes,
secondes.
Publier les comptes, donner les informations aux Français. Comment ça se fait que les opérateurs de l'État ne mettent pas leurs comptes en ligne? Comment ça se fait qu'on n'ait pas des comptes consolidés pour l'ensemble des collectivités locales en France? Comment ça se fait qu'on doive demander pendant des mois pour avoir les bilans sociaux alors que c'est obligatoire depuis la loi de 2019? Donc la réalité, c'est contrairement à ce que vous disiez, monsieur, c'est pas plus de bureaucratie, c'est moins de bureaucratie.
C'est communiquer, donner
ses comptes, c'est donner finalement l'information, comment on utilise l'argent public. Aujourd'hui, c'est pas du tout possible de faire des évaluations cohérentes.
Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris-Nord, et Christian Saint-Étienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Je vous retrouve demain à partir de 9h. Très bonne journée.
Merci.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business.
Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
La deuxième partie des experts avec cette fois-ci nos trois invités. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de Où va notre argent, les dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent. Le scandale français, c'est aux éditions de l'Observatoire. Christian Saint-Étienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, auteur du Conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. C'est la collection Alpha. Et puis Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à la Sorbonne Paris-Nord, membre des économistes et du manifeste pour l'industrie. Dans un instant, on va parler du risque de dégradation de la note de crédit de la France chez S&P. La décision sera annoncée vendredi et puis on vous parlera aussi du plan de bataille du gouvernement pour lutter contre la fraude sociale estimée par la Cour des comptes entre 6 et 8 milliards d'euros. Mais d'abord, Christian, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur la réindustrialisation de la France.
Alors, on est à la jointure d'un changement de stratégie, puisqu'on s'est désindustrialisé massivement depuis 40 ans, mais avec une forte accélération dans les années 2000. C'est pas arrivé par accident. les autorités françaises, mais le monde universitaire, les sociologues, tout le monde s'est convaincu dans les années 90 que la désindustrialisation était une bonne chose. Il ne faut pas l'oublier. À l'époque, on parlait de monde post-industriel, post-travail.
On parlait d'usines, on parlait d'entreprises sans usines. Voilà, c'était la stratégie
2000,
de Serge Turuc.
En 2000, on avait Turuc, qui était le patron d'Alcatel-Alstom, qui a parlé de l'entreprise sans usines. C'est la réussite absolue sur le plan stratégique, puisqu'il n'y a ni entreprise, ni usine, ni plus rien. On avait l'équivalent d'un Samsung et tout a été détruit. Donc la question de la réindustrialisation, ce n'est pas seulement une question du coût du travail. Globalement, dans l'industrie, le coût du travail, c'est, selon les chaînes et la nature de la robotisation, entre 10 et 20% du coût global. Le point clé, c'est également la politique énergétique, parce que au milieu des années 90 et à la fin des années 90, on a laissé se déliter notre politique énergétique. On avait un avantage comparatif colossal avec une énergie électrique qui était moins chère qu'ailleurs, sous les coups de boutoir des Allemands, mais aussi par la nullité des autorités françaises, gauche et droite confondues d'ailleurs, on a laissé se déliter cet avantage. Donc pour réindustrialiser, il faut être clair, il faut doubler la production électrique sur les 20 prochaines années. Qui annonce un plan de cette nature? On a même laissé, on a foudroyé, c'est le cas de le dire, en parlant d'électricité et EDF, au cours des derniers 18 mois, alors que c'est l'acteur clé de la transition énergétique. On attaque Total. Total investit beaucoup aujourd'hui dans le photovoltaïque, mais pas en France. S'il y avait quelque chose d'intelligent plutôt que de s'attaquer au super profit ou autre, ça serait d'exiger de Total d'investir massivement dans le photovoltaïque. Réindustrialiser de manière intelligente, c'est aussi produire les panneaux photovoltaïques sur le territoire français, parce que du photovoltaïque à base de panneaux importés de Chine, c'est d'une stupidité sans nom. Donc c'est une stratégie globale qu'il faut mettre en place pour la réindustrialisation. Donc simplement aller chercher...
À vous entendre, on en est loin.
Oui, absolument. Parce que aller chercher des investissements étrangers, ce n'est pas suffisant. Ce sont les arbres qui cachent la forêt d'une désindustrialisation lente qui continue. La seule façon de vraiment réindustrialiser, c'est de massifier la France en grosses PME et ETI. Il faut doubler le nombre d'ETI, ces entreprises de taille intermédiaire.
Comment on les fait venir, ces entreprises? Comment est-ce qu'on les crée?
Il y a d'abord la question du coût du travail, effectivement, entre 2 et 5 SMIC, parce que c'est là que se trouve l'essentiel des emplois industriels. D'ailleurs, une des raisons qui pousse à réindustrialiser, c'est que les Français se plaignent à juste titre d'un appauvrissement du pays. Mais l'appauvrissement du pays, il est lié à la désindustrialisation et à la perte des emplois qui sont correctement payés.
Mais il n'y a pas que la fiscalité des entreprises qui compte. Il y a aussi la fiscalité des personnes physiques.
Bien sûr, mais ça ne gêne pas les ouvriers qui sont
en SMIC. Regardez ce qu'ont fait les Suédois dès 2004, et ce sont les sociaux-démocrates qui l'ont fait. Ils ont supprimé l'impôt sur les successions et les donations pour tout le monde parce que grands entrepreneurs quittaient leur pays, notamment le fondateur d'IKEA. Le fondateur d'IKEA avait quitté la Suède, il était parti en Suisse, ils ont changé les choses.
Il est parti pour des raisons fiscales personnelles,
et
vous avez
revenu,
raison.
Il est revenu grâce à ça. Pourquoi? Parce que finalement...
Oui, Macron a supprimé l'ISF.
Attendez. On est à 0,7% de taxation sur les successions et les donations, on est plus cher que tout le monde.
Mais là, on sort du débat sur la réindustrialisation.
C'est complètement lié.
Non, madame, vous ne pouvez pas dire ça.
Si nos PME et nos ETI étaient moins taxés dans la transmission, on en aurait gardé beaucoup plus sur notre sol ces dernières années. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui décident à un moment d'arrêter, qui ne transmettent pas leurs entreprises ou qui partent à l'étranger parce que nous taxons tellement. Nous sommes à 15 à 17% de la valeur de l'entreprise pour transmettre en France, alors qu'en moyenne dans l'Union européenne, c'est 5%. Les Allemands, ils transmettent à zéro. Les Italiens, ils ont des abattements énormes. Les Irlandais, mais pas au niveau de nos voisins européens.
Oui, certes,
la moyenne, c'est 5.
J'ai une proposition sur ce plan.
Attendez, c'est hyper important. La fiscalité personnelle, elle est hyper importante pour garder des PME, des ETI, des entreprises industrielles sur notre territoire. Et on n'en parle jamais.
Dany Lang n'est pas d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord. J'étais d'accord avec ce que disait Christian Saint-Etienne, décidément aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a signé le même texte pour demander une révision radicale des coûts de l'énergie, la manière dont est tarifiée l'énergie en Europe. Et c'est vrai qu'on partage cette vision manifeste pour l'industrie, en grande partie celle que vous évoquiez tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord du tout avec ces histoires de fiscalité, parce que quand on regarde notamment la répartition... Non, pas du tout. Parce que premièrement, tous les travaux empiriques sérieux pour tout ce qui est fiscalité, c'est un déterminant mineur, voire insignifiant de l'investissement. Quand on prend tous les travaux empiriques qui ont été menés, on ne trouve pas de corrélation entre ce facteur-là et l'investissement. Et puis par ailleurs, il y a déjà eu pas mal de révisions de ça. Il faut quand même avoir conscience que l'une des raisons de l'insatisfaction sociale actuelle qui fait que la réforme des retraites passe mal, indépendamment du fait que d'après moi et d'autres, il n'y en avait pas besoin. C'est la question de l'accès au patrimoine. Vous avez les 50% les moins favorisés en France qui possèdent moins de 7% du patrimoine et les 10% les plus favorisés qui sont autour de 50%. Donc c'est pas là que se pose la question. C'est pas ça qui détermine une stratégie industrielle. Je suis en désaccord complet avec vous sur la fiscalité. Donc, on était
Christian voulait réagir également.
Je voudrais répondre là-dessus. Il y a 10% des Français qui, sur l'ensemble des taxes directes, des impôts directs, payent 50% de la note. On a une fiscalité qui est de plus en plus concentrée. Sur l'impôt sur le revenu, c'est de pire en pire. C'était 70% qui était concentré sur les 10% qui déclarent le plus. Maintenant, c'est 75%. Alors, imaginez que la fiscalité des personnes n'a pas d'impact sur les décisions d'investissement, de création d'entreprises, de transmission des patrimoines entrepreneuriaux de notre pays, je pense que c'est complètement décalé. Par ailleurs, il y a quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué. C'est la question du poids des normes dans notre pays. Nous, on l'évalue à 100 milliards, 80 milliards qui pèsent sur les entreprises.
C'est pas nouveau ce débat. Nicolas Sarkozy l'avait déjà ouvert.
On met deux ou trois fois plus de temps pour pouvoir construire une usine en France par rapport aux pays voisins. Et ce ne sont pas que des normes européennes. On a adopté dans la loi climat et résilience énormément de nouvelles normes qui pèsent et qui n'ont pas été évaluées dans l'étude d'impact. Donc, contrairement à nos voisins du nord de l'Europe, on n'évalue pas en temps réel les nouvelles normes qui vont arriver sur les entreprises et on le fait pourtant pour les collectivités locales. Comment ça se fait que les collectivités locales aient un centre d'évaluation de la norme qui évalue en permanence alors que pour les entreprises et les ménages, on a zéro chiffrage. Donc ça aussi,
c'est... Il faudrait un office parlementaire.
On a le CNEN pour les collectivités locales, on évalue tous les ans et alors du côté des entreprises, on n'évalue pas alors que... En Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne.
Sur la fiscalité, le point clé, c'est effectivement la transmission. Sur cette transmission, moi je fais une proposition depuis plusieurs années, c'est la création de fondations de production qui permettraient de loger les actions des entreprises en contrepartie d'une durée de détention très longue dans ces fondations. C'est un peu acclimaté en France. Les trusts ou surtout les fondations allemandes. Et l'idée, c'est que si les actionnaires laissent les actions très longtemps dans ces fondations, à ce moment-là, la fiscalisation est beaucoup plus faible. Donc, il y a une contrepartie de stabilisation du système industriel. Mais effectivement, je suis d'accord que la fiscalité est trop élevée parce que la dépense publique est trop élevée. Mais c'est pas le facteur central qui empêche qui va empêcher la réindustrialisation. Ce qui nous tue actuellement, et si vous regardez le point numéro un des entreprises qui veulent s'installer en France, c'est la disponibilité d'une énergie pas chère à long terme. Donc aujourd'hui, c'est devenu un enjeu clé. L'autre enjeu clé, c'est la disponibilité de terrain pour construire des usines. Donc c'est pour cela
que... Le foncier est cher, il n'est pas disponible.
Voilà, on évoquait la question de la transition énergétique tout à l'heure, mais il faut une stratégie globale dans ce domaine, comme dans celui qu'on évoquait tout à l'heure sur l'urbanisation.
Juste un mot sur la question de l'énergie. RTE avait fait un rapport en 2017 pour dire qu'on allait finalement quasiment diviser par deux la consommation d'électricité, etc.
Je me suis élevé contre ce rapport scandaleux.
Ce rapport,
d'ailleurs.
Nous, on a fait des études sur ce sujet en disant, attention, on a des risques de blackout, des risques de coupure, etc.
Il ne faut pas diviser par deux, il faut doubler la production.
À l'époque, on était très peu nombreux à dire quelque chose sur ce rapport, payé par nos impôts, avec finalement des préconisations qui étaient complètement...
Moi, je vais très loin, je propose l'abolition de RTE, parce qu'ils ont complètement bousillé notre...
notre système électrique. Comment se fait-il qu'on paye autant de rapports avec nos impôts qui sont en réalité complètement à côté de la plaque et qui nous emmènent derrière dans le mur et qui nous empêchent de créer des emplois en France? Ça, j'aimerais bien qu'à un moment, le Parlement se saisisse de cette question.
On va passer au sujet suivant. Je vous donne deux réactions. Merci Agnès, votre vision est rafraîchissante, nous dit Jean-Marc. Message de Arnaud qui nous dit « J'aime beaucoup Agnès Verdier-Molinier et ses idées, mais j'aimerais bien la voir au ministère des Finances pour voir si elles sont réellement applicables. » Voilà. Peut-être aux prochaines élections. On va parler de la France qui est confrontée à un risque de dégradation de sa note de crédit chez S&P. La décision sera annoncée vendredi. On sait que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, négocie étroitement. Ça a été confirmé par Elisabeth Borne cette semaine. On nous a raconté, après la dégradation chez Fitch, que c'était essentiellement l'opposition à la réforme des retraites qui posait problème, parce que ça limite les possibilités de réforme en France. Agnès Verdier, est-ce que le problème de base, c'est pas avant tout la dépense publique qui fait peur aux agences de notation?
C'est avant tout la capacité à assainir notre gestion publique, à montrer qu'on est capable d'avoir un cap, à montrer qu'on est capable de réduire la dépense. On est à 58% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. Et est-ce qu'on a fait des annonces qui rassurent vraiment?
Là, vous parlez des prélèvements obligatoires.
Non, je parle de la totalité des dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. Et qu'est-ce qui est important pour ceux qui prêtent à la France? C'est de se dire qu'ils vont prêter à finalement un pays qui sera capable de les rembourser derrière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc, on n'a pas fait de coalition après les élections de 2022. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un contrat de coalition comme ce qui se passe notamment en Allemagne, mais dans plein d'autres pays européens, si vous regardez comment ça fonctionne, finalement, il y a des contrats de coalition, il y a des caps, il y a une signature. En Allemagne, c'est 177 pages de contrats de coalition qui ont été signés. Et derrière, c'est vrai qu'on est dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va pouvoir passer? Il y a beaucoup d'annonces en ce moment gouvernementales qui visent à rassurer les marchés. On le voit, c'est la question finalement de baisser de 5% les dépenses de l'État. Mais en réalité, quand on regarde, c'est peau de chagrin, parce que ça arrive que sur 170 milliards de dépenses de l'État, alors qu'on a 1500 milliards de dépenses publiques, il va falloir un projet beaucoup plus clair et beaucoup plus rassurant. Et moi, ce que je demande, c'est qu'à un moment, on ait cette véritable revue de dépenses, mais globale, et en mettant aussi autour de la table les acteurs sociaux, hein, ceux qui dirigent finalement les grandes caisses d'allocations familiales, les caisses sociales, parce que ça, là, c'est l'essentiel de la dépense, mais aussi ceux qui dirigent les collectivités locales. Et ce qu'on n'a jamais fait en France, c'est la revue des missions publiques. Qui fait quoi? Et ce qui nous coûte hyper cher dans le système, c'est qu'on surpaye parce qu'on paye tous les échelons à travailler un peu sur toutes les missions publiques, sur l'école, sur le logement, sur les transports, sur la santé, etc. Et plus ça va, plus les échelons s'occupent aussi de toutes les questions, et moins c'est clair, et plus il y a un enchevêtrement.
Ça veut dire quoi? Qu'on pourrait faire aussi bien en dépensant moins?
Mais ça nous coûte entre 70 et 80 milliards de plus pour produire nos services publics chaque année, sont les chiffres de l'OCDE. Alors ça c'est finalement un peu le déficit public incompressible de la France, on l'explique très bien par ce surcoût de production de nos services publics. Donc une revue des missions publiques, ça fait des années qu'on en parle, ça n'a jamais été fait. Donc je crois que le gouvernement pour l'instant il gagne du temps, il essaie de rassurer les agences, mais ça n'aura qu'un temps. Derrière, il va falloir avoir un plan beaucoup plus charpenté.
Dany Lang.
Alors, évidemment, je suis en désaccord complet, donc je vais moi aussi prendre le temps de développer. Alors déjà, il faut rappeler que les agences de notation, c'est pas l'alpha et l'oméga. On leur a donné le pouvoir à cause de ces fonds de pension américains très très massifs et de ce système de retraite privée. On leur a donné le pouvoir. Mais rappelez-vous que ces mêmes agences de notation notaient triple A des produits en 2008 qu'elles appelaient en interne pieces of shit, c'est-à-dire de la merde. Donc, il ne faut pas non plus exagérer le sérieux et la qualité. Et d'ailleurs, devant le Parlement américain, quand on les a interrogées, elles ont rappelé que ce qu'elles émettent, c'est des opinions. D'accord ? Donc souvent, ces agences ont un point de vue qui est extrêmement discutable et qui est souvent assez limité. Notamment, ils n'utilisent pas, à ma connaissance, de modèles macroéconomiques sérieux. Voilà. Donc déjà, il faut commencer par rappeler ça. Et puis, les marchés financiers, c'est bien gentil, mais on s'est mis à la merci des marchés. Et les marchés ont souvent des demandes contradictoires. Elles demandent d'un côté à ce qu'on ait plus de croissance, qu'on ait moins de chômage, qu'on ait plus de tranquillité sociale. Et de l'autre côté, elles demandent de couper dans les dépenses publiques, ce qui n'est pas forcément compatible. Voilà. Donc, par ailleurs, Agnès Verdier-Molinier évoquait le chiffre du rapport de la dépense publique par rapport au PIB, mais soyons clairs, ça ne veut pas dire qu'il reste que si on dépense 58%, si la dépense publique représente 58% du PIB, ça ne veut pas dire qu'il reste 42% pour le privé. La dépense privée, quand on la compare au PIB, on est à peu près à 250%. Donc ce n'est pas du tout comme ça que ça se pose. Et soyons clairs, ce n'est pas parce que c'est de la dépense publique que derrière, ça ne va pas au privé. Il y a une très grande partie en France de la dépense publique qui, justement, relève de la redistribution. Parce qu'en France, quand on regarde les indicateurs, notamment le fameux coefficient Gini, cet indicateur-là nous indique qu'avant redistribution, on est aussi inégalitaire que les Américains et les Japonais.
Mais on l'est beaucoup moins après redistribution.
Après redistribution, on descend à peu près au niveau de l'Allemagne.
En dessous de l'Allemagne.
Pardon ?
On a une meilleure...
Le Gini après redistribution, il est autour de 3,1, ouais. Ce qui est à peu près le niveau allemand, hein, quelques chouilles après, quelques virgules près. Vous pourrez aller vérifier. Après, il y a d'autres indicateurs qui sont plus intéressants que le Gini, notamment le rapport interdécile. Mais ça, c'est une autre affaire. Toujours pour dire, moi, je veux bien qu'on regarde la dépense publique, mais attention, effectivement, ces dernières années, on a eu une redirection de la dépense public vers l'aide aux entreprises. Donc, il fallait le faire au moment du Covid, etc.
Je vais me faire l'avocat du diable. L'aide aux entreprises, ça permet de créer des emplois ou d'en maintenir.
Ça dépend de quoi on parle. Le fameux CICE, les emplois qui ont été créés par le CICE ou maintenus étaient quand même extrêmement cher par rapport aux emplois, par exemple, territoire zéro chômeur. Les emplois CICE, si je me souviens bien, les études, elles nous disaient qu'on était à 800 000 euros par emploi.
C'est un gouvernement de gauche.
Christian va réagir. Question de dépenses publiques, effectivement, il y a une question d'enchevêtrement
des compétences,
mais dans l'organisation. Il faut une simplification massive qui ne viendra pas sans réforme institutionnelle. Dans les 58 points de dépenses publiques, il y a au moins 12 points de PIB de dépenses publiques au niveau des collectivités locales. C'est devenu extrêmement inefficace, donc il faut re-responsabiliser les collectivités locales, vraisemblablement en portant l'élection de la commune à l'intercommunalité, ce qui permettrait de faire des économies massives en back-office dans les collectivités locales. Mais il y a également mais le problème central de l'action publique, c'est son inefficacité. Alors, on est à 58 points de PIB. Si on avait l'éducation la meilleure du monde, si tout le monde sortait à 18 ans ou 20 ans en maîtrisant toutes les technologies, en parlant trois langues...
C'est pas ce que nous dit le classement PISA.
Voilà, c'est l'inverse de ce qu'on observe. Si on avait une insécurité qui avait disparu sur le territoire, s'il n'y avait pas de chômage sur le territoire, si on était à 4 points de PIB de R&D en France, si on avait l'économie la plus productive d'Europe, moi je serais pour les 58 points de dépenses publiques. Donc la question c'est d'avoir 58 points de dépenses publiques, un chômage des jeunes qui reste élevé, une insécurité croissante et surtout un effondrement des compétences à l'école primaire. Donc ça c'est un problème majeur, d'autant plus que souvent on dit l'école est inefficace, c'est d'ailleurs le même discours sur l'hôpital, il suffit de mettre plus de moyens. Mais en réalité... Au niveau de l'école primaire et du collège, on a plus de moyens donnés en France que dans les autres pays qui sont beaucoup mieux classés que nous dans le classement PISA. Donc il y a toute une réflexion, par exemple, on le sait, à l'école primaire, le problème central, c'est la pédagogie et la façon dont on enseigne la lecture, l'écriture et le calcul. Avec des travaux qu'on n'avait pas il y a 15 ans, mais dont on dispose aujourd'hui, on sait que les trois années clés de la formation quasiment d'un être humain, c'est en fait les trois premières, c'est-à-dire la dernière année de maternelle, le cours préparatoire, le CE1. Un gamin qui ne maîtrise pas lecture, écriture, calcul à la fin du CE1, il s'en remet pas quasiment de toute sa vie. Donc il y a un travail majeur à faire à ce niveau-là. C'est pas une question de dépenses, c'est une question de réflexion sur la façon dont on enseigne la lecture. Sur l'action locale, c'est quand même pas normal qu'on ait une crise du logement. parce qu'on ne trouve pas de terrain et qu'il n'y a pas d'autorisation de construction.
Donc, parce qu'on ne veut plus artificialiser les sols.
Voilà, et donc il y a une réflexion qu'on doit avoir sur cette question d'artificialisation des sols. On le sait, c'est ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire la construction collective. On n'est pas obligé de faire des barres type Courneuve, mais on peut faire des immeubles de 3, 5, 7 étages aux dernières normes de qualité. Et avec des transports en commun électriques, vous améliorez massivement la qualité des logements et vous réduisez l'empreinte carbone. Donc il y a toute cette réflexion. En fait, il n'y a plus de direction stratégique de l'État. Il n'y a plus d'État stratège depuis plus de 20 ans.
Monsieur, est-ce que vous êtes pour le rétablissement du plan ?
Moi, je suis pour le plan stratégique.
Je voudrais ajouter quelque chose, si je peux. Il a été dit qu'on a un problème, finalement, de dégradation des services publics par rapport, finalement, à l'argent qu'on met en face, qui est l'argent de tous les Français.
Mais je crois qu'on n'en a pas pour notre argent.
On n'en a pas pour notre argent, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre. Mais est-ce qu'on a le droit d'évaluer la qualité des services publics en France ? Parce qu'entre deux écoles, il n'y a pas du tout les mêmes résultats. Entre une école privée sous contrat et une école publique. Moi, je montre tous les chiffres dans le livre. Pour les élèves de 6e, pour lire un texte de 200 mots, finalement, dans le privé, vous avez plus de 60% des élèves qui le lisent très bien. Dans le public, vous êtes à 52%. En REP, vous êtes à 40%.
Mais est-ce que c'est lié à l'enseignement ou est-ce que c'est lié simplement
aux origines sociales?
C'est lié à un énorme problème de capacité de gestion des personnels dans le secteur public. Mais bien sûr que si. On fait une expérimentation. On confie dans des départements qui sont défavorisés, on confie les écoles en question ou les collèges en question à des gestionnaires privés, notamment de l'enseignement privé, qui travaillent très bien. Aujourd'hui, tous les ministres, la plupart des ministres ont leurs enfants dans le privé. La plupart des députés ont leurs enfants dans le privé aujourd'hui. Et ils ne sont pas tous issus de catégories socioprofessionnelles extraordinaires. Non. Donc arrêtons de dire que c'est un problème de mixité, parce que ça, c'est trop facile. C'est pareil pour l'hôpital et les cliniques. C'est pareil pour regarder entre deux hôpitaux, la gestion entre deux hôpitaux. Il y en a qui sont très bien gérés, il y en a qui sont très mal gérés. Donc, comme on n'a pas le droit de le faire, la CNIL vient de donner finalement un veto pour empêcher les journalistes du Point de faire un classement des hôpitaux et des cliniques qu'ils faisaient tous les ans depuis des années et des années. Est-ce que c'est normal ? Dans les pays qui nous entourent, on incite justement à faire des classements, à valoriser le bon travail des bons gestionnaires. Est-ce qu'on le fait pour les collectivités locales ? C'est pareil, on l'empêche, cette possibilité de classement et de palmarès. Donc, si on veut mieux gérer l'argent public, il faut valoriser les bons gestionnaires. Bon. Et en réalité, on le fait pas du tout. Et même, c'est contraire à ce que, finalement, la doxa française qui veut qu'on ne regarde jamais comment on utilise les deniers publics.
Dany Lang.
Alors, j'aimerais juste rappeler quelque chose. Ce discours, on l'entend depuis 40 ans.
Non, pas du tout.
Si.
Bah non.
On l'entend depuis 40 ans.
Et depuis 40 ans,
depuis
on empêche
40 ans,
de regarder
si vous,
ce qui
s'il vous
passe.
Plaît, je vous ai pas interrompu. Maintenant, c'est à mon tour. Depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on observe ? Je prends l'exemple de l'université, mais aussi à l'hôpital. On a rajouté, au nom de l'efficacité de la dépense, des couches de bureaucratie à n'en plus finir. La réforme d'université de M. Sarkozy et de Mme Pécresse, c'était censé nous faire monter dans le classement PISA. On est descendu dans le classement PISA. Pourquoi ? Parce qu'on s'est retrouvé avec des bureaucrates à tous les étages qui vont vérifier chaque fois qu'on va faire pipi. Donc des formulaires, de la bureaucratie, etc. Moi, je veux bien qu'on ait plus d'efficacité. Le problème de ce discours, c'est qu'il débouche notamment à l'hôpital et notamment à l'université, des endroits que je connais quand même relativement bien, sur de la bureaucratie, des rapports. Dans tous les laboratoires de recherche CNRS aujourd'hui, il a fallu recruter une personne juste pour vous aider à décrocher des contrats pour avoir de l'argent. Donc on passe son temps dans des histoires pareilles plutôt que de travailler sur le fond de ses recherches.
Au moins vous êtes tous d'accord
attention,
il faudra une réforme en profondeur.
Non mais attendez.
Il faudrait une réforme en profondeur, mais pas pour nous ajouter des couches de bureaucratie au nom de l'efficacité.
Mais il y a quelque chose...
Le cœur du sujet, c'est de faire ce que d'ailleurs la théorie économique et les bonnes pratiques de gestion conseillent, c'est d'avoir des unités de production publiques qui soient soumises aux règles communes, c'est-à-dire un budget, une mission et des responsables. Donc on a effectivement une réforme du management de l'action publique qui est absolument fondamentale. Mais il faut aller aussi, j'évoquais cette question qui est centrale, quand même les études, elles sont terrifiantes. 18% des enfants sortent du CE1 sans maîtriser les trois compétences de base, mais 12% les maîtrisent mal. Ça fait 30%, c'est gigantesque. Hein. Donc, et en plus, ils s'en remettent pas pratiquement pendant tout le reste de leurs études et pratiquement pendant tout le reste de leur vie. Donc sur ce plan-là, il y a des progrès colossaux qui sont faits dans les techniques pédagogiques. Il y a un moment, il faut imposer les bonnes techniques au corps enseignant. On ne peut pas continuer d'avoir un corps enseignant qui enseigne la lecture par le semi-global quand on sait que si on ne fait pas 3 mois d'alpha-syllabique, on n'aura pas les gamins qui savent lire à Pâques. Donc il y a un moment, il y a une question de management de la sphère publique qui est absolument cruciale.
Il y a un sujet, c'est déposer les comptes,
secondes.
Publier les comptes, donner les informations aux Français. Comment ça se fait que les opérateurs de l'État ne mettent pas leurs comptes en ligne? Comment ça se fait qu'on n'ait pas des comptes consolidés pour l'ensemble des collectivités locales en France? Comment ça se fait qu'on doive demander pendant des mois pour avoir les bilans sociaux alors que c'est obligatoire depuis la loi de 2019? Donc la réalité, c'est contrairement à ce que vous disiez, monsieur, c'est pas plus de bureaucratie, c'est moins de bureaucratie.
C'est communiquer, donner
ses comptes, c'est donner finalement l'information, comment on utilise d'argent public. Aujourd'hui, c'est pas du tout possible de faire des évaluations cohérentes.
Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, Dany Long, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris-Nord, et Christian Saint-Étienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Je vous retrouve demain à partir de 9h. Très bonne journée.
Merci.